bon début d'après-midi à tous et bienvenue aux amateurs de sport week-end. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Merci d'être là en notre compagnie. J'espère que vous vous portez bien. Vous avez entendu la situation de la COVID qui s'améliore encore une fois au Québec, au Canada. Écoutez, on a effacé en un mois et demi au Canada près de 80 % des cas de COVID-19, les cas actifs. On est passé de 85 000 à 18 000 au pays. 80 % de moins en un mois et demi. Donc, félicitations à tout le monde. Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux dans nos hôpitaux. Ça va mieux aussi dans notre vie sportive, puisqu'on a des choses intéressantes à suivre, notamment le Canadien et sa série de demi-finale qui va débuter lundi. Il y a l'Euro, bien sûr, qui bat son plein. L'équipe nationale canadienne de soccer aussi qui poursuit son chemin vers une potentielle qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc, plusieurs sujets à l'émission d'aujourd'hui. On va parler aussi à Jocelyn Thibault du duel de gardien de but dans cette série. Ray Lalonde, Sport Business. On va parler à Guillaume Latendresse, mais aussi on va parler des Lions de Trois-Rivières, cette nouvelle équipe de hockey, ainsi que au journaliste Benoît Rioux qui était présent hier dans un parc de Boisbriand qui a été renommé au nom de Derek Aucoin. Donc, on va parler de tout ça dans l'émission d'aujourd'hui, mais à tout seigneur, tout honneur, débutons avec Martin McGuire qui avait du pain sur la planche ce matin. Salut Martin!
Salut Jérémy!
Oui, écoute, ce matin, on s'est levé puis disons que la job nous attendait déjà.
Oui, bien, dernier entraînement de préparation ici à Montréal avant le début de la demi-finale contre les Golden Knights. Le Canadien s'entraînait pour presque 60 minutes. Ensuite, direction aéroport et l'équipe prendra son vol dans quelques minutes maintenant pour retrouver Vegas. Il y aura un dernier entraînement de préparation demain à Vegas. Là, c'est la journée de demain servira de tampon pour se familiariser avec le 3 heures de décalage horaire avec l'État du Nevada, bien sûr. Alors, on a rencontré l'entraîneur il y a de ça quelques minutes à peine. Un petit peu plus tard dans ton émission, Jérémy, j'aurai des extraits de ce qu'on a jasé avec l'entraîneur du Charme. Mais Marc Bergevin a rencontré virtuellement les médias pendant que son équipe peaufinait sa préparation pour la participation au Carré d'As. Une deuxième pour l'équipe dirigée par Marc Bergevin, le directeur général depuis 2014. Quelques propos intéressants. J'en ai récupéré les meilleurs extraits. D'entrée de jeu, on va parler de la saison en dents de scie du Canadien, mais aussi le fait qu'à un moment donné, Marc Bergevin avait un peu la tête sur le bio par rapport aux décisions qu'il avait prises. Et à ce moment-là, bien sûr, le club n'allait pas très bien. On va écouter sa réponse là-dessus.
J'ai cru en cette équipe-là dès le début, même ici en janvier, quand je vous ai annoncé qu'on avait bâti une équipe pour les séries. C'est certain qu'il y a toujours des obstacles, mais aussi on a eu des périodes difficiles durant l'année. Puis je te cacherai pas que la cédule de 25 matchs, quoi, en 44 jours, nous a fait beaucoup mal de physiquement, mais aussi mentalement. On était la division qui avait le plus de voyagement entre l'Est et l'Ouest. Alors ça aussi, ça rentrait dans le corps des joueurs.
Autre élément de cette réponse, Jérémy, écoute, à un moment donné, là, les Maple Leafs de Toronto étaient à quelques centimètres d'envoyer le Canadien en vacances. Ils tiraient de l'arrière 1-3. On se souvient de ce qui est arrivé. La sortie de Carey Price après ce quatrième match, le retour en force pour les cinquième, sixième et septième. On a quand même demandé à Marc Bergevin si à 1-3, il n'est pas devenu un peu nerveux. D'autant plus que à ce moment-là, Jérémy, on rappelle que la tempête était déjà partie. Des gens voulaient sa tête sur un bio. On va écouter le directeur général là-dessus.
Moi, personnellement, j'étais calme. On est très conscient qu'il y a des vétérans leaders qui sont levés dans la chambre, qui ont eu entre eux-mêmes des discussions. Puis je crois des Corey Perry, des Eric Staal, des Jake Allen, Eddie, Webby, ont dit des choses à dire qui étaient importantes. Puis écoute, ça prend aussi de la chance, faut pas se le cacher. Mais tout semble bien aller, puis la façon qu'on performe en ce moment, je suis très fier de notre équipe.
Et oui, Jérémy, vas-y.
Non, écoutez, j'ai suivi le point de presse un peu de Marc Bergevin. Je sais que ça s'en vient dans ton prochain sujet, donc je voulais peut-être l'aborder. Le fait qu'on a eu une saison irrégulière, là, c'est-à-dire qu'on a eu des hauts, on a eu des bas. Et à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui a posé la question à Marc Bergevin. Selon toi, c'est quoi le point tournant? Et il n'a pas été capable de mettre le doigt dessus. Mais moi, j'aurais tout de suite répondu, Martin, la fameuse semaine de congé. Pour moi, c'est là que ça ça se passe. Je sais pas ce que t'en penses.
Là, tu parles de la semaine de congé qui a précédé le début de la série contre les Leafs.
Exactement.
Ouais,
exactement.
Probablement. Ça a été effectivement quelque chose d'important. Au même titre que la semaine de congé là. Tu sais,
oui.
Peut-être que lundi soir, le Canadien va peut-être avoir l'air flat, comme on dit en bon québécois, dans les premières minutes de la première période. Peut-être pas non plus. Mais honnêtement, Jérémy, plus cette série-là va avancer contre les Golden Knights et plus l'autre semaine de pause qui vient de terminer officiellement aujourd'hui va peut-être avoir été bénéfique.
Absolument.
Alors, on va entendre ces commentaires. Une saison où le Canadien n'envoyait pas le message d'une équipe potentiellement capable de joindre le carré d'as. On va l'écouter.
Écoute, j'ai vraiment pas la réponse exacte, la raison pourquoi, mais comme l'expression de proof's in the pudding, en ce moment, c'est une équipe qui a beaucoup de confiance, qui croit en le moyen, puis t'as un mix de jeunes, de vétérans, puis ils ont vraiment du plaisir à jouer ensemble, puis ça paraît sur la patinoire, ça paraît dans le vestiaire, alors les joueurs sont très excités de commencer cette série lundi à Vegas.
Il a également parlé en anglais, Jérémy, du fait que, tu sais, il a été questionné sur le choix de Dominique Ducharme pour prendre les rênes de l'équipe. Puis on le sait, là, jusqu'au dernier match de la saison régulière, les statistiques de Dominique Ducharme étaient moins bonnes que celles de Claude Julien avant le congédiement de Julien. Et Marc Bergevin a répété qu'il était convaincu que c'était la bonne chose à faire et que surtout, Dominique Ducharme était le bon choix. Alors que disons-le qu'à la fin de la saison là, régulière, des gens remettaient le choix même de Ducharme en question. Puis les statistiques nous donnaient à penser que le changement d'entraîneur avait pas été une grande décision. On a jasé également d'une autre décision qui est arrivée quelques années en arrière quand même, Jérémy, mais le choix de donner 10 millions de dollars à Carey Price, de le garder, puis de faire en sorte que Price n'ait pas envie d'aller sur le marché des joueurs autonomes où il aurait probablement eu le même montant d'argent. Mm-hmm. Pendant plusieurs années, on a remis ça en question. Un sport contrôlé par un plafond salarial assez serré. Pourquoi avoir tant investi sur un gardien de but? C'était pas une tendance qui était existante dans la Ligue nationale. Forcé d'admettre qu'aujourd'hui, c'est peut-être la décision que Marc Bergevin a pris quand on voit les conséquences de ce qui se passe en 2021.
Comme vous voyez dans les séries, toutes les équipes qui vont le plus loin de série en série ont toujours des gardiens qui performent. Puis pour avoir du succès dans les séries, ça prend vraiment un gardien de but qui est à la hauteur. Alors Carey Price, on l'avait ici à Montréal, puis il n'y avait aucune raison de le laisser partir pour que lui ait du succès dans une autre organisation. Alors c'est un joueur clé pour nous. Écoute, c'est une décision qui a été réfléchie, mais c'est encore aujourd'hui la meilleure décision qu'on a prise.
Martin, je vais te poser une question là-dessus parce que il semble se dessiner une tendance depuis quelques années dans le cas de Carey Price. Des saisons régulières en dents de scie, mais en séries éliminatoires, il est là. Il a été là dans la bulle l'année passée. Il a fait le travail encore une fois cette année. Est-ce que Marc Bergevin, selon toi, est à l'aise avec le fait que durant la saison régulière, ça va probablement prendre un bon coup de pouce de la part du numéro 2 pour se rendre là où on veut être en série? Mais une fois rendu là, jusqu'à maintenant, il semble à chaque fois être capable de relever son jeu d'un cran.
Pourquoi pas, Jérémy?
Il y a toujours le risque de ne pas faire les séries, c'est certain.
Ouais. Mais est-ce que vraiment les années où le Canadien n'a pas fait les séries, c'était directement lié à Carey Price?
Non.
Je pense pas.
Non,
puis, tu sais, honnêtement, la présence d'un meilleur deuxième là donne aussi raison. C'est-à-dire que quand t'es capable d'avoir une bonne combinaison, tu sais, puis il y a pas seulement à Montréal, tu sais, puis on s'accroche le 10 millions là, mais il y a pas seulement à Montréal, Jérémy. Tu sais, à Boston là, écoute, l'équipe a du succès, ils sont en série année après année.
Ouais.
Vous allez me dire que c'est pas seulement ça, mais quand on a dit à Tuukka Rask à Boston, tu vas avoir un meilleur auxiliaire, tu vas avoir Jaroslav Halak. Écoute, Tuukka Rask en était totalement convaincu aussi que c'était la bonne chose à faire. Pas au début, mais il en a été convaincu. Alors, honnêtement, Jérémy, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que si les Oilers d'Edmonton avaient eu Carey Price et Jake Allen, tu penses-tu que le Canadien serait encore en série? pense pas.
Ouais. Non, non, c'est un excellent point. Puis écoute, si on est capable de travailler en amont en cette direction-là, puis on est capable de garder Jake Allen aussi cette année au repêchage d'expansion, on verra. Mais c'est une formule qui peut fonctionner, définitivement.
Effectivement. Écoute, Pacioretty, Suzuki, Tatar, ça va revenir sur le tapis.
C'est
Tatar est pas utilisé, là. C'est plate parce que lui, il s'en va à Vegas, puis c'est l'équipe qui a pas cru en lui en série. Puis il va être encore sur le taxi squad, là, sur l'équipe de réserve.
Mais on sait jamais. On sait jamais.
Mais on sait jamais. Il y a des blessés. Des blessures. On a parlé un peu de Suzuki parce que quand la transaction s'est faite, le Canadien a exigé Nick Suzuki. Mm-hmm. Il y a eu d'autres noms de prospects des Golden Knights qui se sont promenés sur la table quand il y a eu ces négociations-là pour Pacioretty. Mais pour le Canadien, on avait ciblé Suzuki et Marc Bergevin l'avait vu à l'époque où Suzuki a été un des joueurs par excellence de la belle épopée de l'équipe de Owen Sound en série. Cette année-là, Owen Sound était un peu comme le Canadien. Pas d'affaires là, puis ils se sont rendus jusqu'en Coupe Memorial. On va écouter le directeur général du Canadien sur Nick Suzuki.
On aimait l'upside de Nick. Je me souviens très bien à Owen Sound, dans les séries éliminatoires, je crois que c'était contre London, puis une autre équipe. Ils sont allés en 7 matchs, puis Nick était le joueur qui a levé son niveau de jeu à un autre niveau supérieur. T'sais, il y a des joueurs sous la pression ou sous les gros moments qui « they're fold », mais Nick, depuis très longtemps, son niveau de jeu monte de plus en plus que le stage est élevé. Alors, c'est une chose. Puis même à la Coupe Memorial contre Ottawa, j'avais été le voir jouer. Il m'a vraiment impressionné dans les gros matchs, la façon qu'il se comportait. Puis aujourd'hui, c'est la même chose qu'on voit.
Alors, bien évidemment, Jérémy, quand tu cibles un joueur, des fois, tu l'as pas dans l'année suivante, mais tu peux l'avoir 2-3 ans après. Il était arrivé la même affaire avec Ben Chiarot. À ce moment-là, Bergevin était recruteur, puis il avait été voir Chiarot dans les séries de la Ligue américaine, qui jouait pour Terre-Neuve, le club-école des Jets, et c'est là qu'il l'avait identifié, puis il avait mis son nom dans son calepin. Je termine avec quelques résumés.
Oui.
D'entrée de jeu, Bergevin a dit qu'il y avait aucun problème lorsque Paul Maurice a décidé de serrer la main aux entraîneurs, puis de s'en aller ensuite, puis de pas faire partie de la file pour serrer la main des joueurs. Il dit qu'il y avait aucun problème avec ça, puis que parfois, il y a des entraîneurs qui font ça. Puis honnêtement, Jérémy, je fais une petite parenthèse, là. Tu sais, dans le hockey, avant, là, la tradition, c'était les coachs se serrent la main, ils s'en vont, puis les joueurs. Alors, tu sais, Bergevin, il a dit, il a absolument pas manqué de classe. Quelques autres éléments très rapides dans le cas de Bergevin. On a choisi Bob Gainey pour la petite conférence l'autre jour parce que Bergevin a dit à l'interne à l'équipe, là, il dit on a un thème pour nous dans les séries, là, il y a toujours un thème pour les joueurs et qui se rattache à ce que Bob Gainey a été comme joueur et aussi comme dirigeant pour l'équipe. Alors il dit c'est une des raisons pour lesquelles on l'a invité. Il dit, c'est une personne calme, posée. C'est une personne de peu de paroles, mais qui est capable de passer un message en peu de mots et de se faire bien comprendre. Alors c'est la raison pour laquelle on a choisi d'amener Bob Gainey. Alors voilà mon cher.
Quels sont vos plans de voyagement?
Nous, Danny et moi, on va quitter demain, Jérémy, en direction de Vegas. Et vous l'avez peut-être lu dans les quotidiens, là, puis j'en ai parlé un petit peu dans les dernières heures. Là, la raison pour laquelle on est en mesure d'y aller, c'est que la Ligue nationale, avec le gouvernement fédéral canadien, c'est bien de le préciser, là, ont négocié le fait que les commentateurs, comme Danny et moi, et nos amis de TVA Sport, Félix Séguin, Patrick Lalime, entre autres, là, seront enfermé entre guillemets dans une bulle à Vegas, c'est-à-dire chambre d'hôtel, dodo, boulot, arena.
Pas de poker, pas de spectacle.
Non, et même là, on n'a pas l'opportunité même de sortir à l'extérieur de la chambre pour ne cesse que de se commander de la nourriture.
Mais même pas avec un chapeau puis une moustache.
Même pas. Et évidemment, on va être soumis aux mêmes choses que les joueurs quand nous allons revenir à Montréal là, pour les matchs 3 et 4. On va être un peu confinés, entre guillemets, dans la bulle familiale, là, un peu comme les joueurs le sont. Alors, voilà, puis on aura des tests quotidiens à passer, bien sûr, là-bas. C'est ce qui a été négocié pour permettre aux commentateurs comme Danny et moi d'avoir le plaisir de vous présenter ça sur place en direct.
C'est ça ou c'est rien? Fait que regarde, on va le prendre.
Fait que, c'est ça. C'est on ça. Va le prendre certain. On va le prendre certain. Ça se passe. Ça arrive pas souvent, Jérémy. Hein?
Non, c'est ça. Exactement.
2014, la dernière fois.
OK, merci, Martin. Salut. On s'en parle dans une heure avec les commentaires de Dominique Duchamp.
Très bien.
Salut. Bye bye. Petite pause au retour de session. On va parler à Jocelyn Thibault, ancien gardien de la Ligue nationale de hockey, qui va nous parler de ce duel entre Carey Price et Marc-André Fleury.